Il nous parle maintenant de la germination du romanesque dans le premier roman de Victor Hugo.
Merci et je vous remercie de votre bienveillance. Aujourd'hui, je commence à ce titre, la germination du romanesque dans le premier roman de Victor Hugo. Nous avons eu l'occasion de traduire en Islande, en japonais, en 2000. En traduisant mot à mot le texte, nous avons conçu l'imaginaire et l'écriture du Hugo qui nous fascinait. La fascination provient du fait que en Islande est comme germe de prendre divers thèmes d'imaginaire et diverses formes d'écriture et de diverses techniques dans la création romanesque postérieure de Victor Hugo. Par exemple, en ce qui concerne la technique de ce roman, Hugo emploie le procédé du mélodrame comme modèle. D'après le traité du mélodrame de Monsieur AAA, 1817, dont l'un des trois auteurs est son frère aîné Abel Hugo. L'important, ce sont des personnages typiques comme principaux personnages. Un niais, un tyran, une femme innocente et persécutée, un chevalier et quelque animal apprivoisé, etc. Ce traité mentionne, en principe, des plus grandes beautés naissent des contrastes. La manière de produire des personnages provient de ce procédé très visiblement. On connaît bien le goût du Hugo pour le contraste. Les descriptions curieuses du paysage norvégien, basées sur le contraste, annoncent, nous semble-t-il, des œuvres graphiques prodigieuses. L'écriture romanesque précède les dessins. C'est-à-dire, la fiction romanesque produit comme vision la création des œuvres graphiques. Au plan du lexique, on y remarque la fréquence des adjectifs hugoriens, comme l'ordinateur nous la montre. Sombre, hideux, obscur, charmant, farouche, difforme, lugubre, effrayant, noir, sinistre, formidable, ténébreux, pensif, profond. L'enquête sur le lexique hugorien pourrait avoir un sens important en fonction du contexte où tel mot s'emploie. Le beau titre Fortune de Victor Hugo, que nous avons aujourd'hui pour notre colloque, nous inspire le problème de la fortune dans Andisrande. La polyvalence du mot fortune nous amène à penser tout simplement à trois sens. Sort, chance et richesse. D'abord, la première signification de fortune est appliquée au thème central de ce roman, dont le chapitre 26, le chapitre de réflexion, se situe justement au milieu. Il s'agit des caprices de la fortune, c'est-à-dire des bizarreries du sort. C'est justement cette fortune, autrement dit la destinée, qui domine les événements arrivant au personnage de Andisrande. Puis, la deuxième signification du mot fortune consiste à rendre aux autres uhu ou mahuhu. Lorsque Ether veut en pleurant faire renoncer à l'aventureuse résolution d'Ordinaire qui va combattre Andisrande, Ordinaire dit, je ne dois pas balancer entre vos larmes et vos intérêts. Il s'agit de votre fortune, de votre bonheur. de votre vie, peut-être, de ta vie monétaire. La fortune équivaut ici au bonheur. Enfin, le troisième sens du mot est lié à l'argent, à l'or, auquel les personnages secondaires de Andisland s'acharnent. Gilstad pauvre, qui tombait amoureux de Gutstersen riche, parti pour l'Eros afin de se faire mineur et de gagner de l'or. Il s'agit pour Gilstad de chercher fortune dans ces maudites mines de l'Eros. Quelle est la signification de l'or pour les personnages de Andisland? Pour le bourreau Nicolas Dix, l'exécution de l'ex-chancelier Schumacher était la bonne chance. Ma fortune est faite, chapitre 12, mais la grâce faite à Schumacher empêcha ce bourreau de faire sa fortune. À la fin du roman, encore une fois, il perdra la chance de l'exécution de Schumacher. Le misérable Andisland a été brûlé et je n'aurai même plus son corps, que j'ai payé deux ducats. Quant à Spiagudry, il aimait l'or prodigieusement. Les promesses d'ordinaire furent comme une parole magique. C'est parce que s'il revient vainqueur de un, ordinaire lui promet non seulement sa grâce, mais encore l'abandon de 1000 écus royaux qui sont offerts par la justice. Enfin, le guichetier au cachot, ainsi que le peuple, s'est acharné à l'or. C'est l'or sur lequel les deux vieillards se jetèrent avec avidité commune aux paysans de cette pauvre Norvège. Norbit June a besoin de l'or pour la cause, non pas de la révolte pour le comte Schumacher, mais de l'aide pour sa mère. Chapitre 18. Dans la cour, nous devons croire que le comte d'Arefeld doit songer à le récompenser. Devant sa maîtresse, la comtesse d'Arefeld. Nous démon se prend de sa fortune, qui signifie sa situation. Ma fortune est liée à la vôtre. La fortune commune à nous démon et à la comtesse d'Arefeld voudrait dire sa bonne situation qui les rend heureux. Au contraire, les personnages principaux, ordinaires et indifférents, ne s'intéressent pas à leur propre bien. Mais ordinaire les utilise très efficacement. Par exemple, d'abord, la boucle de diamant pour payer le frais de transport au pêcheur Gurdon Steiper, chapitre 3, qui n'oubliera pas le visage de celui qui a fait ma fortune. Ensuite, de l'or pour payer le frais de d'hôtel à l'hôtesse de Tour Maudite. Enfin, 13 écus pour dédommager le bureau Nicolas Dix de la grâce de 12 condamnés que l'aumônier Athanase Munder demande. Chapitre 12. On l'or fait fonction du médiateur qui unit les personnages. C'est l'or qui permet à l'ordinaire d'accompagner comme guide Spiagudry. C'est l'or grâce auquel l'ordinaire peut demander à l'hôtesse de la tour maudite de s'installer pour s'abriter de la pluie. C'est l'or qui réunit le comprateur Aket et les révoltés montagnards. Donc, ordinaire, c'est-à-dire ordonné, ou bien ordonné, appartient au milieu favorable, à la famille riche du vice-roi de Danemark et de Norvège. Ordinaire se caractérise par l'épithète suivante. Brave, noble, bon, aventureux, généreux, opiniâtre, triomphant, intrépide, digne, etc. Cependant, pour en distraindre, ordre ne me sert à rien. Ce qu'il veut, c'est de la chair, non pas de l'argent. Excusez-moi. Ça cruche, nous amène. En disant, ce ne commet pas le nourriture pour l'or, mais pour du sang. D'où son vampirisme de bête sauvage. Lors du révolte des mineurs, il avait dit au colonel, s'il te fallait un salaire pour tuer ces hommes, j'aurais encore, colonel, de l'or pour te donner en paiement de l'eau de sang. Sa vie sauvage ne valorise pas l'or, mais il sait que dans la société humaine, l'or, seule chose précieuse, domine sa vie. De sorte qu'il avait demandé à Spiegelry de remettre la cassette de fer qui doit contenir de l'or à la veuve Stat, femme adultère, pour lui payer son fils Gilmore. Excusez-moi. Dans la machine infernale de Hackett, c'est-à-dire de Monsieur Demon, l'or dieu en l'or majeur aussi dans ce drame ténébreux. Le comte d'Arfert offrira en récompense de la cassette de fer à Andisland tout ce qu'il peut désirer. Je vous assurerai une fortune immense. Je demanderai votre grâce au roi. Dans Andisland refuse, mais Andisland refuse nettement de cette proposition. Les têtes de Han et de Spiagudry sont mises d'une part au prix de 1000 écus royaux et de l'autre au prix de 4 écus royaux. À la fin de ce roman, à la justice, Todic Belfast, qui a fait de Fohandisland prisonnier, est en train de recevoir 10 000 écus d'or. Quand se révèle le vrai Andisland, je suis Andisland. Cette parole nous évoquera, je suis Jean Valjean à la cour d'assises d'Arras. Il révèle sa vraie nature. Ma nature est de haïr les hommes. Ma mission de leur nuire. Or, tous les personnages hugoriens sont misérables. La fréquence prodigieuse de ce mot dans Andisland est très significative parce que misérable détermine le climat romanesque et l'univers imaginaire de Victor Hugo. Surtout, dans 40 ans, deviendra le titre de son roman central, Les Misérables. Le champ sémantique du mot misérable s'étend, s'approfondit de la pauvreté des mineurs au mépris des traîtres, de la pitié pour les faibles femmes et pour les lâches, à la haine pour soi-même, du malheur du prisonnier à la scélératesse du criminel, de la faiblesse de la femme adultère au mal du conspirateur, de l'infidélité du gardien à l'état égaré des montagnards et des pêcheurs et à eau condamnée à mort. D'ailleurs, ce mot misérable est le reflet de la parole d'Imogène dans Bertram, tragédie en cinq actes de Maturin. Je suis une femme misérable, accablée de crimes. Imogène, comme Lucie, comme la comtesse d'Arfert, est la mère d'un enfant dont les sourires me poignardent, cité comme épigraphe du chapitre 10. Or, le chapitre 16 de Andisland est une histoire rétrospective, comme flashback. Lucy Perunir est à Handisland avant d'être à Karlstad, malgré que celui-ci attaque hardiment celui-là. Cette femme adultère met au monde un fils qui s'appelle Dirstad, pour lequel elle a un mélange d'horreur et de tendresse. Le regard de Lucie était plein de délire. Depuis ce jour, je suis impure et innocente, et je serai punie éternellement. Mes malheurs dans la vie seront mes crimes dans l'éternité. Le discours de Lucie est plein de quelques rêves affreux, d'impures apparitions, d'effrayants songes et des visions épouvantables. Alors, Andisland appelle deux fois Lucie faible femme. L'aspect misérable de la femme provient de sa faiblesse et son infériorité corporelle, de le mépris contre les femmes. Moi, je t'ai possédé, mais je ne t'ai jamais aimé. Il s'agit de la possession sans amour, ou bien de l'amour corporel, disons charnel, non pas spirituel, de Andisland. Parallèlement, dans la cour, la femme adultère rêvait aux arrière-goûts amers de jouissance impure, du haut crime qui use la vie, par des joies sans bonheur et des douleurs sans consolation. Cette comtesse d'Arefert avait vu l'âme à travers le corps. Chapitre 10. Il s'agit des âmes dégradées. Le fils Frédéric, comme tous les enfants gâtés, se montre froid envers sa mère. La mère est aveuglée par l'amour pour son fils adultérin. Ça aurait été l'heure inexorable où l'ange exterminateur lancera les âmes pécheresses dans les châtiments éternels. Les âmes qui ont commis un crime recevront des châtiments mérité. Andisland est au plan de l'imaginaire de la mort, une histoire qui commence avec de l'eau et qui finit avec du feu. Au début, on annonce que Gute Stelsen s'est noyé. Au milieu de ce roman, la mort de Spia Guderi est symbolique. Andisland fait une Spia Guderi tomber dans les eaux profondes du lac. Vers la fin du roman, après un immense incendie, on y trouvera qu'il y a deux crânes. Quoi qu'il n'y eut qu'un cadavre. Cette manière de finir donnera une ressemblance à celle qui sera très impressionnante dans Notre-Dame de Paris. Les deux secrets, dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé, de l'autre au feu, de l'horizontalité à la verticalité. C'est une des poétiques du romanesque dans Andisland. Lorsque Nicole Orjix fait tomber son frère Tidiaf Orjix, il lui dit « Que ton corps soit la proie de l'eau, tandis que ton âme sera celle du feu. » En ce qui concerne du feu, Andisland, venu du pays du volcan, est un incendiaire de toute la forêt et de l'église cathédrale de Drontan. Le cadavre défiguré du Gude Stelsen et le corps mutilé de Dirstad font connaître la fin de l'amour. Voilà où conduit l'amour. Puis, on rapporte la tête défigurée du cadavre du capitaine Dispolsen, assassiné par Andisland. Il s'agit de la scène de la morgue, qui s'appelle Spradogest. Il va sans dire que le cadavre même qui nous effraie est le matériel du roman noir. C'est une obsession de la mort que Hugo conçoit. Pour Victor Hugo, quel est le corps humain? quel rôle le corporel joue-t-il dans Andisland, d'ailleurs, qui est Andisland? Victor Hugo insiste sur l'animalité de Andisland. L'animal, c'est justement être corporel, non pas être spirituel. La force de l'animal, c'est une force destructive et meurtrière, et donc démoniaque. Le bec de l'aigle, la férocité du tigre, sa malice de singe, des grondements d'un ours qui caresse son petit, ongles longs, durs, retors, comme d'une bête fauve. Ces traits ont quelque chose d'extraordinairement sauvage. Puis, généalogiquement, le descendant de Andisland, son fils Dirstad, a autant de force que lui. Un admire la faculté physique de son fils Dir. Mais avec sa mort, un perd la descendance d'un golf d'exterminateur. Et moi, je serai le dernier de ma race, dit-il. En incarne de mal, je suis démon. Dans le combat entre ordinaire et indifférent, celui-ci s'était suspendu à lui tout entier, comme la panthère s'attache de la gueule et des griffes au flanc du grand lion. C'était quelque chose de plus hideux qu'une bête féroce, de plus monstrueux qu'un démon. C'était un homme auquel il ne restait rien d'humain. Sur Andisland, vit toujours seul. On dit qu'Andisland est actuellement sur ses plages. Ne rappelez pas Pandi, car il vit toujours seul. Il ne se cache jamais. Il erre toujours. Il vit toujours seul, reprit le lieutenant. La solitude et l'errance de la vie sauvage d'Andisland renforce la férocité et la violence déjà très mythique et légendaire. Dans le régime diurne de l'imaginaire, ordinaire combat contre Andisland fugitif, symbole du temps et du mal. Andisland commandant à toutes les puissances des ténèbres. Schumacher a dû tout le malheur de sa vie aux hommes, tandis que Andisland a dû tout le bonheur de sa vie aux hommes. Bonheur pour Andisland est celui de sentir des chairs palpitantes frémir sous ma dent, un sang humain réchauffé mon gosier altéré. Et pour lui, la volupté est celle de briser des êtres vivants contre les pointes de rochers et d'entendre le cri de la victime se mêler au bruit des membres fracassés. D'autre part, l'incarnation du mal à la queue. Monsieur Démon acquête d'une figure ouverte comme une bûche de l'enfer et comparé péjorativement à un chat sauvage, au corbeau bavard. Or, la tête coupée, c'est-à-dire le corps manqué et l'image de la peine de mort qui doit être prononcée soit à un, soit à Spiagudry. Cette image apparaîtra lors de l'écriture comme expression métaphorique. Ta grimace aimable qui ressemble si bien au dernier éclat de rire d'un pendu est-elle regardée la terre d'un œil terne et indifférent, de l'œil dont le condamné la regarde au moment où la hache se lève derrière lui sur sa tête. L'intérêt l'inconscient produit l'écriture métaphorique. Chez Hugo, le corps s'oppose à l'âme très clairement. Spiagudry, effrayé de la voix de Andisland, supplie que Saint Hospice ait pitié non pas son âme, mais de son corps. Andisland s'intéresse aux os et à la chair. Le méchant, le malheureux, le misérable, s'acharne à leur corps, non pas à leur âme. Ce dualisme cartésien s'incruste constamment dans la tête de Hugo. Le prince régnait Rodebro, Noctan la bergère, quand le venin bancourt du brigand Cripstadur, l'engolfe l'exterminateur. Cette lecture d'éther est mise comme un abîme, c'est-à-dire le microcosme dans le macrocosme. Dans le roman de Chevalerie, le combat entre l'ordinaire et le monstre se situe au sommet. Dans ce combat, le vainqueur devient le vaincu et vice-versa. À ce moment, la pensée d'amour, comme une prière, rendit des forces à ordinaire. L'amour est plus fort que la mort. Or, pour amoureux, monter, c'est d'abord gravir, pour s'approcher du lieu sacré, où habite le prisonnier et sa fille infortunée. Puis monter, c'est franchir les obstacles des montagnes, comme épreuve initiatique. Ensuite, monter, c'est mieux voir, se rendre compte, découvrir le pays, méditer, converser avec soi-même et avec son étoile. C'est justement contempler, un point lumineux, rayonnant à l'horizon, comme une étoile rouge, le fanal de Munkholm. Sa périlleuse ascension lui permet de parvenir sur le haut. Oui, il faut que l'homme gravisse longtemps et péniblement pour voir, enfin, un point de bonheur dans l'immense nuit. Quant à Éther, elle était belle comme un ange qui remonte de l'enfer au ciel. La montée est un sens paradisiaque. Quant à la verticalité descendante, il y a deux manières de tomber, la chute et la descente. Au plan de la société, dans la cour, Schumacher est tombé par la machine infernale. La chute de Spiaggia, dont le corps pesant serait tombé dans les eaux profondes du lac, est aquatique et démoniaque. Lors de révolte, la plupart de ces marauds rebelles sont précipités dans l'abîme. On a l'imaginaire archétypal tout à fait hugorien. C'est un pays large et circulaire. C'est un gouffre. C'est l'incommensurable étendue des ténèbres que lui était contraint de traverser pour l'atteindre. Penché sur l'abîme, intrépide l'ordinaire, en écoutant un bruit lointain de bois, sentit un désir invincible d'y descendre. Le geste penché sur l'abîme est tout à fait hugorien. Dans le poème préliminaire des contemplations, Hugo chantera: et j'entendis pencher sur l'abîme des cieux. Le royaume des profondeurs nous évoquera son poème à venir intitulé Puitande, des rayons et des ombres. Mais comment y descendre? En se suspendant audacieusement à la formidable échelle, ordinaire s'enfonça dans l'abîme. Il descendit graduellement, répétitivement, et enfin aboutit au royaume du souterrain où il boit ce drame ténébreux. La mort est hideuse au méchant, par le même sens, un sentiment qui la rend belle à l'homme du bien. Tous deux vont quitter ce qu'ils vont du mal. Mais la juste est délivrée de son corps, comme d'une prison. Le méchant en est arraché comme d'une forteresse. Au dernier moment, l'enfer se révèle à l'âme perverse, qui a rêvé le néant. Elle frappe avec inquiétude sur la sombre porte de la mort. Ce n'est pas le vide qui lui répond. Pour ordinaire et éther, l'image de la mort est l'ascension, non pas la descente. Si ordinaire gravit pour voir un point lumineux, le fanal Munkholm, éther se placera aux fenêtres du donjon de manière à le voir monter sur l'échafaud. Enfin que leurs âmes s'envolent ensemble dans le ciel. Et ce soir, le cercueil sera notre lit nuptial. Ce personnage principal ordinaire est un homme de l'œil, un homme de regard. Le regard de curiosité, le regard de domination d'ordinaire s'oppose au regard de séduction, de frivolité, de Frédéric. On peut dire que l'histoire d'amour entre ordinaire et éther est celle d'épreuve où l'ondure impose des obstacles, c'est-à-dire la distance à cause de laquelle le regard de l'un n'attend pas celui de l'autre. Ainsi, les yeux représentent-ils l'état d'âme des personnages? Pessimisme du Schumacher est décrit dans le regard où se peignait le calme du désespoir, plus effrayant que le calme de la mort. Le regard de Mousdemon nous montre à la fois la gaieté et quelque chose de diabolique et de sinistre. Chapitre 7. Le regard irrité du bourreau rencontre le regard calme et bienveillant de l'aumônier Athanase Münder. Le lac, l'anneau universel qui reflète le ciel, produit une singulière illusion d'optique. C'est comme si un abîme prodigieux, perçant le globe de part en part, laissant voir le ciel à travers la terre. Cette image de profondeur du gouffre préfigure l'univers imaginaire du visionnaire Hugo. L'expression « voir le ciel à travers la terre » équivaut à l'arbre vu du côté de la racine dans le satire de la légende de siècle.
Monsieur le professeur, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes à peu près au terme de... du temps qui vous est imparti. D'accord. Donc si vous pouvez peut-être vous orienter vers la conclusion.
Merci. Je raccourcis. Les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Hugo mentionnera souvent l'œil de Dieu. La base de la pensée hugorienne repose sur la conscience que Jean-Jacques Rousseau a raconté dans Profession de foi de Vicaire Savoyard d'Emile. La comtesse d'Arafelt à un air conscience, c'est-à-dire la voix inférieure. Pour Hugo, conscience est représentée par lui. La parole de cet aumônier repose sur l'omniprésence de Dieu. Le regard de l'aumônier, très calme et très serein, protégera l'ordinaire du danger en lui donnant le frère parchemin et lui dit. Le regard d'un pénitent est plus puissant que le grève de l'archange. Etc. Dans le chapitre 23, ordinaire a vécu une sorte de télépathie. Ah, n'en doutons pas à travers le temps et les espaces. Les âmes ont quelquefois des correspondances mystérieuses. Hugo utilise le mot contempler, méditer. Les personnages de Anne d'Island, comme ceux des œuvres hugoriennes, deviennent rêveurs, pensifs et contemplateurs. Chapitre 13 traite de l'entretien de deux Serera, du conte d'Arfelt et Mousdemon, la réciprocité des deux âmes perverses, du doublement de leur crime, prennent un miroir, deux méchants qui conversent avec tout le cynisme du tête-à-tête, de leur passion, de leur plaisir, de leurs intérêts, se font l'un à l'autre comme un miroir effrayant, renvoie son propre image dans celle de l'autre. Dieu ne voit pas leur entretien a toujours deux insupportables témoins. Dieu, qu'il ne voit pas, et la conscience, qu'il sent. Les méchants ont leur conscience. Cette pensée dominera toutes les œuvres romanesques de Victor Hugo. Le général Ruben de Cunard est sensible à un chaos d'intrigue, dans lequel on veut l'engloutir, mais il a aussi comme boussole sa conscience. Son cœur noble et grand commençait à s'effrayer de la haine qu'il portait aux hommes depuis si longtemps en la voyant reproduire dans le cœur d'Anne d'Islande, comme par un miroir effrayant. Le pessimisme de Schumacher provient de son misanthropie, puisqu'il a trahi. Tous les hommes sont produits, faux, fourbes, ingrats, ambus, calomniateurs, cruels, etc. Dans quelle intention a-t-il commis tant de crimes? Non pas dans l'intention de s'enrichir. Quelque chose est en lui qui le pousse. Qu'est-ce que c'est? C'est précisément la fortune d'Anne d'Islande. Anne d'Islande dit au comte d'Arfeld vive, puisqu'il fait du mal aux hommes. Le mal du comte est puni par le même orgueil qui a causé tous les crimes. Quant au frère ennemi, il étreignait un ennemi, celui qu'il venait d'embrasser un frère. Il eut été difficile de décider lequel des deux frères était le plus effroyable dans ce moment où il luttait avec la stupide férocité d'une bête sauvage, l'autre avec furieux rusée d'un démon. On voit ici l'archétype du fratricide comme celui Caïn et Abel chez Victor Hugo. Pour Anne d'Islande, dissimulation et la dévoilement. Anne d'Islande se déguise en ermite. Il cache ses mains sous des gants énormes. Il connaît la vérité transformée, défigurée par les gens. Il démentit le faux bruit dans des faits. La parole d'Anne d'Islande incompréhensible. Il grommela quelques mots dans une langue étrangère. Il est là, il n'est pas là. On dit qu'Anne d'Islande est actuellement sur les plages. Anne d'Islande, un petit homme, où on dit que c'est Jean, ou bien c'est non, puisque ce qu'il voit pour la première fois, le voit aussi pour la dernière. La terreur de Anne s'intensifie parmi les gens. À ces sons inarticulés, semerait par intervalle quelques mots d'un jargon étrange que Spiagudry ne comprenait pas. Son effacement subit, son mouvement rapide, ses violences sont aussi son animalité. Anne emploie l'expression « c'est moi qui » répétitivement devant Spiagudry à la justice. L'exhibitionnisme de Anne nous évoquera l'ego Hugo. Voilà.
Je crois que la discussion interviendra après la deuxième communication. Je remercie beaucoup le professeur Ogata. Parmi les choses tout à fait intéressantes qu'il nous a dites, la fréquence du mot misérable en Islande et la richesse des significations qui s'attachent à ce mot sera certainement une des choses que nous retiendrons le plus de cet exposé tout à fait précis.